France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Je ne fais entre vous aucune distinction d'âge, de sexe ni de rang. Je vous mets dans une salle de théâtre, tous, comme si je vous mettais dans le même panier, pêle-mêle, serrés les uns contre les autres, coude à coude, ainsi que depuis 50 ans je vous vois tous les soirs. Je vous dirai que ce qui cause ma surprise et mon ravissement, c'est de penser que chaque soir, à la même seconde, vous saisissez la drôlerie d'un mot, l'éloquence d'un geste, l'ironie d'un clin d'œil.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Sur la survie de son théâtre, rares étaient ceux qui, en son temps, auraient parié plus d'un copec. Je parle de l'œuvre de Sacha Guitry. Et pourtant, si l'on considère les dramaturges prestigieux qui lui furent plus ou moins contemporains, une constatation s'impose avec quelque brutalité. La plupart de ceux-là, qu'on joua jadis abondamment sur les scènes les plus prestigieuses à Paris et ailleurs, sont aujourd'hui réfugiés dans les pages de manuels de littérature et leurs pièces n'accèdent plus guère à la scène. Voyez donc le quasi-effacement, si l'on excepte Paul Claudel, de la plupart de ceux qui triomphèrent dans la première moitié du XXe siècle. Par exemple, Henri Bernstein et plus tard Monterland, Jules Romain et même Jean Giraudoux. Alors que par contraste, Sacha Guitry fait encore régulièrement le bonheur de nos théâtres à Paris et ailleurs, tandis que son cinéma est repris dans les salles d'art et d'essai et dans les cinémathèques et séduit de jeunes générations de cinéphiles. Guitry lui-même a dit un jour, non sans quelque coquetterie, « Mes ennemis me font beaucoup d'honneur, ils s'acharnent sur moi comme si j'avais de l'avenir. » Eh bien, cet avenir, il est là, il est notre présent. Pour éclairer une réflexion sur cette postérité imprévue, je vais faire appel à Christophe Barbier. Journaliste notoire, actif dans plusieurs médias, il est aussi, depuis sa scolarité à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, féru de théâtre, comme auteur et comme comédien. Il a publié Naguère, entre divers ouvrages qui témoignent de sa dilection pour la scène, un livre averti et joyeux qu'il a intitulé « Le monde selon Sacha Guitry ». Il s'annonce donc comme le meilleur des guides possibles pour éclairer ce mystère, la rare survie d'une œuvre profuse que la critique installée avait regardée de haut, en son temps, avec une condescendance ostensible.
Il m'a été donné naguère d'exprimer en vers libre ma tendresse pour le théâtre sous forme de conseils donnés par un comédien sensible. Ces conseils, les voici. Adore ton métier, c'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux, et ça, vois-tu, c'est encore mieux. C'est mieux que tout, c'est magnifique. Et tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit. Tu l'entendras. Ça, c'est unique, mon chéri. Oh, le bruit que ça fait, tu verras, c'est très beau. Imagine un très grand silence, on vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire une chose qui plaît, un geste inattendu, comique, et ça commence tout à coup, car ça commence d'un seul coup. Et voilà le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue, et le rire au galop qui traverse la salle emporte tout. Le chagrin, les soucis et les peines. Et comprends bien ceci, comprends que c'est pour ça qu'ils viennent.
Christophe Barbier, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannonnet.
Nous venons d'entendre un extrait d'une causerie de Sacha Guitry sur le théâtre, sur les ondes de la Radio Nationale de Vichy, le 20 juillet 1944. La date n'est pas indifférente, nous aurons à l'expliciter tout à l'heure. Il est là votre Sacha Guitry, n'est-ce pas, celui que vous aimez tant et celui que vous avez célébré dans ce livre précieux que je citais tout à l'heure.
Bien sûr, il est là. D'abord, il est là par sa voix, inimitable et pourtant tant imitée. Et puis, il est là aussi par cette réflexion permanente sur le théâtre comme un art en train de se faire. Des vers qui se mêlent à la prose orale et puis une réflexion sur le métier qui se greffe sur l'exercice du métier. On fait du théâtre pour parler du théâtre. Et ça, c'est Guitry.
C'est Guitry et c'est une des raisons peut-être, je ne fais qu'esquisser quelques pistes de réflexion qui peut expliquer cette survie qui va nous occuper aujourd'hui.
Oui, c'est une des raisons. C'est pas la seule. Le contenu de ce que Guitry nous transmet, notamment sa réflexion sur la nature humaine la plus profonde, et au cœur de cette nature humaine, l'homme et l'amour, l'homme et le désir, l'homme et la jalousie, l'homme et la trahison, c'est-à-dire le cœur vibrant de cette nature humaine, ça, c'est l'essentiel du legs de Guitry. Il nous a transmis quelques invariants de l'espèce humaine dans ce domaine-là, notamment le domaine du couple, de l'amour, comme Molière nous a transmis des invariants sur l'avarice, l'envie, l'ascension sociale, les relations père-fils, etc. Entre Molière et Guitry, on retrouve des préoccupations communes sur ces relations père-fils ou ces autres travers de l'espèce humaine.
Un critique disait, dans cette œuvre, on rencontre partout le plaisir, mais nulle part le bonheur.
Ah, Guitry n'est pas un auteur du bonheur, ça c'est certain. Si tant est que le bonheur appelle une forme de stabilité, de sécurité, de confort, Guitry n'est pas l'homme qui peint le confort de l'histoire amoureuse des hommes et des femmes, mais plutôt l'inconfort, le déséquilibre, l'aventure, le pas de côté, l'adultère, pour tout dire. Tous les adultères d'ailleurs, parce qu'on peut tromper son mari ou tromper sa femme, on peut se tromper soi-même, on peut tromper sa jeunesse, on peut tromper ses illusions. C'est tous ces adultères-là, c'est quand on échappe aux rails du destin qu'on entre dans le théâtre de Guitry.
Vous nous dites, après d'autres, que Guitry, ce serait l'esprit français par quintessence. Un moraliste qui ne fait pas la morale. Un horticulteur de la pensée, dites-vous, qui nous offre des bouquets de formules, de sentences, de bons mots, pour nous édifier, mais surtout pour nous égayer et nous réjouir.
La légèreté. La légèreté, c'est la clé de Guitry, c'est le viatique de Guitry. Et donc, il applique cette légèreté à toute chose, et notamment à sa philosophie de vie. Et en effet, Guitry, c'est un moraliste qui ne fait pas la morale, c'est-à-dire il n'est pas à la recherche du bien et du mal, il ne veut pas trancher dans la verticalité des valeurs, mais il nous donne une sorte de mode d'emploi de l'existence pour que chaque instant soit agréable. Et en se disant qu'on met les instants agréables sur le fil de la vie comme les perles sur le collier, eh bien on va approcher quelque chose qui ne sera sans doute pas le bonheur, mais qui sera l'absence de malheur. Et peut-être que Guitry a fui le malheur toute sa vie.
Christophe Barbier, la naissance de Sacha Guitry est déjà originale, puisqu'il ne naît pas en France, mais en Russie. Cela mérite explication.
Le bébé qui voit le jour à Saint-Pétersbourg s'appelle Alexandre. Évidemment, cette naissance en Russie lui vaudra le surnom de Sacha. Et pourquoi voit-il le jour à Saint-Pétersbourg? Parce que son père, Lucien Guitry, tous les ans, va faire une partie de la saison là-bas. On gagne beaucoup d'argent quand on est un acteur français et qu'on joue au fameux théâtre Michel de Saint-Pétersbourg en français.
La prime jeunesse de Sacha Guitry est marquée par de spécifiques va-et-vient entre Saint-Pétersbourg et Paris, qui explique peut-être d'ailleurs que c'est un cancre.
Le père de Sacha, Lucien, fait sa célébrité à Paris, mais il fait sa fortune à l'étranger, au Brésil bientôt et en Russie beaucoup à la fin du 19e siècle. Et donc en effet, on fait des allers-retours. C'est chic en plus d'aller passer la saison à Saint-Pétersbourg. Mais quand même, l'enfance de Guitry, c'est aussi l'enfance dans le giron maternel. C'est une enfance parisienne, mais qui va le mener d'établissement scolaire en établissement scolaire, avec toujours la même issue à la fin de l'année. Il est viré et il reste en sixième.
Parce qu'à 18 ans, je ne savais pas que c'était possible.
Voilà. Son père lui dit, mais c'est sans doute un propos réinventé par son fils, « J'ai eu peur que tu te maries en sixième, j'ai eu peur que tu meurs en sixième. » Alors il le retire de l'école. Ça l'empêchera pas d'être invité à un dîner d'honneur des anciens de Janson de Sailly. Il n'est certainement pas le meilleur élève au tableau d'honneur, mais il était celui qui était devenu le plus célèbre.
Je voudrais qu'on comprenne ce qu'a été le creuset de cette vie d'homme, c'est-à-dire son départ dans la vie, le caractère très particulier de sa filiation par rapport à Lucien Guitry.
Je n'ai pas eu d'enfant, je suis resté un fils, disait-il. C'est l'ombre portée de Lucien Guitry qui détermine la vie de Sacha. D'abord parce que il y a la vie trépidante de famille qui est la sienne. Il est enlevé par son père alors qu'il a 5 ans et son père l'emmène en Russie pour l'arracher à sa mère, Madame de Pongest, et à la famille de sa mère qui est une famille très très installée. Sa mère d'ailleurs l'a dit à Sacha Guitry. Elle lui a dit tu nous choisis la mauvaise voie, tu choisis d'être ton père. Elle ne l'a pas caché. Et Sacha Guitry s'est laissé emporter par cette aventure de Lucien. Quand il l'enlève, il y a quelque chose qui est très symbolique. Ils vont en Russie où Lucien Guitry tient des saisons théâtrales en français à Saint-Pétersbourg qui lui rapportent des fortunes. Et Guitry, Lucien, cette année-là, commande tous ses costumes en double.
Le Guitry est aussi connu dans la Russie des tsars qu'aujourd'hui Depardieu dans celle de Poutine.
Oh oui, bien sûr, ou que Mademoiselle Georges dans celle de 1812. Et quand cette saison-là, Guitry fait faire les costumes en double, il fait une taille adulte pour lui, Lucien, et puis fait une taille enfant pour Sacha qui a 5 ans. Et on a une photo d'un Pierrot tout petit, c'est Sacha Guitry, à côté d'un grand Pierrot, c'est son père Lucien. Donc vous voyez la volonté d'être dupliqué par son fils, elle était présente chez Lucien.
On dit que le tsar est le parrain de Sacha.
Bien sûr, il s'appelle Alexandre à l'état civil, il s'appelle Sacha pour l'éternité, et le tsar est son parrain.
Oui, ce père a été essentiel dans le destin de Sacha. Écoutez-le donc en parler, ce sont des souvenirs que j'emprunte à l'émission de Pierre Lost en 1955, sans merveille.
Un jour, bientôt d'ailleurs, car les générations se succèdent vite, on demandera comment jouait Lucien Guitry. Il possédait toutes les vertus du comédien dramatique. Il était grand, il était beau, sa voix était généreuse et rien ne rompait l'harmonie de toute sa personne physique. Mais ce qui surpassait tous ses dons merveilleux, c'était son regard, ce merveilleux regard qui ne trahissait jamais sa pensée, qui n'en disait ni trop ni trop peu, et qui lui permettait d'exprimer avec une telle clarté, une telle précision, les sentiments qu'il feignait d'éprouver. Il parlait souvent du magnétisme au théâtre, il pouvait en parler. Dès son entrée en scène, il s'établissait entre le public et lui un invisible lien, une évidente communication dont son regard faisait les frais et que la chute du rideau ne parvenait pas toujours à rompre. Et cependant, Lucien Guitry, par pudeur, évitait autant qu'il était possible de rencontrer les yeux de ceux qui de la salle l'écoutaient. Mais s'il fuyait le regard du public, voulant ignorer sa présence, du moins recherchait-il toujours les yeux de ceux qui se trouvaient en scène avec lui. Là, de tout près, son œil était prodigieux. Il en troubla plus d'un parmi ses camarades. L'œil de Lucien Guitry avait en effet une façon, si j'ose dire, d'écouter qui ne permettait pas à l'interlocuteur d'abandonner un seul instant son personnage. Si tel acteur jouait près de lui un homme véreux, cet œil toujours présent semblait lui dire « Tu es une crapule, tu vois que j'y pense, donc ne l'oublie pas. » C'est ce qui lui permettait à lui de concentrer toute son expression dans ses yeux sans recourir au jeu de physionomie. Ces deux volontés, la sienne et celle de son auditoire, avaient supprimé la distance qui les séparait.
Vous qui êtes comédien, Christophe Barbier, entre autres activités, que pensez-vous de ce portrait? Est-ce qu'il ne pourrait pas en fait s'appliquer à un certain nombre d'autres acteurs? Est-ce qu'il est tellement personnifié?
Non, c'est un portrait en effet qui pourrait s'adresser à d'autres grands acteurs de cette époque et même d'autres époques. C'est un portrait qui est trop pointu pour être complètement honnête. Parce qu'il fait l'impasse sur deux choses. D'abord, le personnage social qu'était Lucien Guitry. Une star de sa carrure, c'était un personnage public. Ses amours, ses banquets, les réceptions qu'il donnait place Vendôme dans son hôtel particulier, les mousquetaires quand il recevait Capu, Jules Renard, Tristan Bernard.
Dans son château de Breuil aussi.
Oui, et puis après, dans la villa Élysée-Reclus, de l'avenue Élysée-Reclus.
Mirbeau, Alphonse Allais.
Bien sûr, il était au cœur d'une vie littéraire et mondaine parisienne, Lucien Guitry. C'était un personnage public, et je passe évidemment sur sa relation avec Sarah Bernard. Ils étaient les deux pendants de cette vie des comédiens, mais qui était une vie publique. Et puis ça fait l'impasse aussi sur le tyran qu'était Lucien Guitry. Guitry était un chef de troupe, un patron de théâtre, et il faisait régner une discipline de fer dont la victime, l'une des victimes, va être son fils.
La brouille, c'est très impressionnant avec le recul de voir qu'ils ont été brouillés pendant 13 ans.
Bien sûr, Sacha Guitry commence le théâtre sans le dire à son père. Il débarque sur une scène dans un petit rôle. Lucien Guitry fait contre mauvaise fortune bon cœur, il l'engage dans sa troupe, il lui impose le même salaire qu'aux autres comédiens.
Et surtout ne pas prendre son nom.
Ah oui, il lui interdit de jouer sous le nom de Guitry. Il lui impose Jacques Lorsay comme pseudonyme. Et puis à la première occasion, il le sanctionne. Cette occasion, elle est fournie par un entracte un peu long entre une matinée et une soirée. Sacha Guitry va chez un ami, il laisse le temps passer, il revient précipitamment en taxi. Il a oublié chez cet ami sa perruque. Il entre en scène sans perruque et quand il met son chapeau sur une tête sans perruque, évidemment, le chapeau lui tombe sur les yeux.
Fatale absence de perruque.
Exactement. La salle rit. Le directeur du théâtre, Lucien Guitry, n'est pas content du tout. Il lui colle une amende qui correspond presque à la moitié de son revenu mensuel. Sacha proteste, il se fâche, le ton monte, il claque la porte. Mais ce petit drame de coulisses en cache un autre. La vraie raison de cette rupture, c'est que Sacha Guitry avait entamé une liaison avec Charlotte Lysès, qui était la maîtresse de son père, l'une des maîtresses.
C'est le contraire de Victor Hugo, qui penche vers les maîtresses de ses fils.
Voilà, là c'est l'inverse. Mais c'est surtout Sacha qui a été prise dans les raies, dans les filets, dans les toiles de l'araignée Charlotte Lysès. Parce que Charlotte Lysès avait accordé ses faveurs à Lucien Guitry en échange d'un grand rôle dans une grande pièce. Elle n'avait eu qu'un petit rôle dans une petite pièce. Elle a mis le petit Guitry dans son lit.
D'où la brouille de fait, et le retour de leur affection est en revanche extrêmement frappant.
13 années de brouille. C'est pas une petite brouille, c'est pas une petite fâcherie. C'est 13 années sans se voir. Un jour, Sacha Guitry se promène avec un ami près du Champ de Mars. Cet ami l'entraîne vers une petite allée. Il comprend pas pourquoi il le fait venir là. Il lui dit « Voilà, c'est la maison de ton père ». Tout le monde le savait, sauf Sacha Guitry. La brouille était profonde. La coupure était grave. Et d'ailleurs, Guitry ne cesse d'écrire des pièces, à ce moment-là, qui cachent des appels à son père. Par exemple, il commence à réfléchir à Pasteur, qu'il offrira à son père. Et puis, il finit par écrire deux bureaux. Deux bureaux père, passant le témoin, deux bureaux fils. Et c'est là que la réconciliation intervient.
Il y a une autre pièce qui s'appelle « Mon père avait raison ».«
Mon père avait raison » qu'il va jouer après. À partir de leur retrouvaille, Sacha Guitry n'écrit plus que pour son père. Il écrit les pièces que lui demande son père et il écrit les pièces où il imagine son père, où il n'imagine que son père. Par exemple, Pasteur, le soir de la première, la fille du grand savant, s'approche de Lucien Guitry et lui dit « Papa !» tellement il a bien incarné Louis Pasteur. Et Sacha Guitry intervient. « Ah non, papa !» Vous voyez, tout était tendu pour la relation avec Lucien Guitry. Ils se téléphonaient plusieurs fois par jour. Ils s'écrivaient en plus de se téléphoner. Ils n'ont pas passé un seul jour sans se voir. Le retrouvailles d'ailleurs sont mis en scène. On est au début de l'année 1918. Sacha Guitry a composé ce « Deux bureaux », qui est une pièce sur la transmission d'un père à un fils.
Vous l'avez joué ?
Je ne l'ai pas joué, « Deux bureaux ». Ça devient difficile à jouer, c'est un peu grandiloquent. Entre-temps, il a rompu avec Charlotte Lysès, parce qu'il a rencontré Yvonne Printemps. Lucien le sait, Lucien réserve une loge. Sacha est mis au courant, votre père est dans la salle ce soir. Ils ne se sont pas vus depuis 13 ans. Sacha Guitry ne veut pas savoir quelle est la loge, il ne veut pas le chercher du regard. À l'entracte, Lucien envoie un message à Sacha, dans sa loge, pour l'inviter à déjeuner le lendemain.
Le théâtre dans le théâtre.
Le théâtre dans le théâtre. Et le lendemain... embrassade dans le grand escalier de l'avenue Élysée-Reclus, de cet hôtel particulier qui est celui de Lucien et qui va devenir celui de Sacha.
Qui incarne leur prospérité, c'est
la prospérité de Lucien. Oui. Et qui sera ensuite eh bien, le grand train de vie de Sacha. Hôtel particulier, hélas, détruit par la sauvagerie immobilière des années 60-70. Mais la mise en scène de ces retrouvailles, ça montre à quel point cette famille était dans le domaine public. C'est vrai de la vie privée de Guitry avec ses épouses. C'est vrai aussi de cette relation avec son père.
Il en a eu 5. La seconde est particulièrement coruscante.
Yvonne Printemps est évidemment de loin celle qui est au sommet de la mémoire. Même si... Charlotte Lysès a eu une importance fondamentale, d'abord parce qu'elle a permis de rompre le lien avec le père, parce qu'elle a permis de compléter le lien avec la mère, elle était autant la mère que la femme de Sacha Guitry, et puis elle a aidé à éclore l'écrivain Guitry. Elle a fait de cet étudiant écrivain facile, dramaturge facile, un véritable écrivain de théâtre qui a trouvé sa voie. Et les pièces qui ont mis Guitry non plus dans le pastiche des auteurs précédents, comme il le faisait avant, il faisait des soufflets d'eau, mais dans la voie de Guitry, c'est à Charlotte Lysès qu'on le doit. Il lui est d'ailleurs resté fidèle jusqu'à la fin de ses jours à elle. Il a pris soin d'elle, il s'est préoccupé aussi de sa sépulture. Et puis évidemment, la troisième, c'est la plus charmante. C'est Jacqueline de Lubac.
Attendez, je voudrais que nous arrêtions sur la seconde, ou plutôt sur la deuxième, c'est-à-dire Yvonne Printemps.
Yvonne Printemps.
Qui a beaucoup compté, qui était une personnalité parisienne impressionnante et qui notamment a chanté la chanson que voici, que vous allez avoir à commenter ensuite, Christophe Barbier. « J'ai deux amants ». C'est une chanson sur des paroles de Sacha Guitry. C'est un enregistrement de 1929.
« J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux !» Je fais croire à chacun d'eux serait le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes, ils me donnent la même somme, exactement par mois, et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Il m'a foi. Il me croit tous les deux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme.
Fatuité, l'intempérance, la rosserie, et puis les atouts, la gaieté, l'allure, la séduction. Elle a incarné une sorte de légende.
Ah, les bonichons ! C'est le titre de la revue avec Maurice Chevalier. Elle a 18 ans à ce moment-là, qui permet aux Parisiens et à Sacha Guitry de découvrir Yvonne Printemps. Donc vous voyez, l'image de la Parisienne, elle part de loin quand même. Guitry la remarque, elle lui tape dans l'œil et dans l'oreille avec cette voix de rossignol, comme on dira. Il écrit pour elle des revues très légères aussi. La première s'appelle « Je vais la voir ». Donc vous voyez, on reste quand même dans un registre de chasse au plaisir. Et puis assez vite, ça va donner une histoire d'amour solide, alors qu'elle s'est un peu éparpillée avant entre différents amants, dont Guinemer.
Guinemer, l'aviateur.
L'aviateur, oui, elle a été l'une des maîtresses de Guinemer.
Et qui a été arrachée à son amour par la mort.
Dès le mois de septembre 1917. Mais ça a permis aussi à Yvonne Printemps de se construire le personnage de la veuve éplorée. Enfin, pas vraiment veuve et faussement éplorée, bien sûr. Avec Guitry, elle connaît le succès, parce que les revues extrêmement joyeuses, comme L'amour masqué, dont on vient d'entendre un extrait, c'est un phénomène culturel d'après-guerre très intéressant. C'est l'éloge de la frivolité, de la légèreté. Elle incarne à ce moment-là la frivolité qui est le début de la liberté, le joyau de ces années folles.
Et qui sauve l'homme et la femme du vieillissement, dit Guitry à ce moment-là.
Un homme d'hier, une femme d'aujourd'hui. C'est l'une des plus délicieuses pièces de Guitry sur ces femmes qui se mettent à conduire des automobiles, à faire du golf, même peut-être à se demander si elles vont pas essayer de gagner leur vie. Ouh là là, autant de sacrilèges pour Guitry qui reste un homme du 18e jeté dans le 20e siècle.
Plus que du 19e, en
fait. Ah oui.
Plus que le bourgeois misogyne. Il faut peut-être que nous arrêtions un instant sur cette question de la misogynie de Sacha Guitry. Il y a toutes sortes de citations qui pourraient porter cette idée. Il faut mentir aux femmes, on a l'impression qu'on se rembourse.
Il n'y a pas de misogynie chez Guitry. Il y a une manière désuète, obsolète, archaïque de considérer la femme, d'idolâtrer la femme. La femme est mise par Guitry sur un piédestal, c'est une déesse faite femme, et donc il faut lui éviter les vices de notre monde.
Les femmes sont fortes pour lui.
Ah, les femmes sont fortes, les femmes sont grandioses, les femmes nous dominent. C'est le fameux aphorisme « Je concéderai volontiers aux femmes qu'elles nous sont supérieures, pourvu qu'elles cessent de se prétendre nos égales ». D'apparence, c'est misogyne, mais en fait non, la femme ne doit pas s'abaisser à faire comme l'homme. Et que fait l'homme ? Il fait des affaires. La femme ne doit pas toucher à l'argent, elle doit être entretenue. Et que fait l'homme ? Il fait de la politique. La femme ne doit surtout pas voter ni faire de la politique. Le monde des ambitions doit lui être étranger. C'est par la glorification et la déification de la femme qu'il en arrive à être non pas misogyne, mais archaïque. Il n'est pas moderne. Il est dans un siècle où la femme veut conquérir ce que l'homme a. Elle veut investir le territoire de l'homme. Et Guitry ne le comprend pas. Pourquoi elle ne reste pas dans ses nuages, dans son Olympe ?
D'ailleurs, il ne résiste guère à une formule qui peut être un peu contraire à l'idée d'une admiration pour la femme. Par exemple, celle-ci. Comme elle est embêtante, j'aurais dû l'épouser. Nous serions séparés depuis longtemps.
Oui, mais c'est le même homme qui dit « Je ne cesse de penser que je ne pense plus à toi ». Ou qui a cette phrase extraordinaire « Dieu que tu étais jolie ce soir au téléphone ». Vous voyez les petites phrases, les aphorismes, les mots d'esprit sur l'amour de la femme, l'amour idolâtre de la femme, sont aussi nombreux que les petits traits, les petites piques misogynes. Mais Guitry aurait vendu son âme pour un bon mot. Il l'a d'ailleurs fait plusieurs fois.
Votre livre est construit, c'est une sorte d'anthologie, mais qui est construit autour d'un certain nombre de thèmes. Et par exemple, le chapitre sur le téléphone que vous venez d'évoquer m'a paru stimulant.
Très important, le téléphone, chez Guitry. Il a appris de Georges Feydeau qu'il fallait intégrer les innovations technologiques à son théâtre et en faire des outils dramatiques pour faire avancer l'intrigue. Et vous trouvez le téléphone dans toute une série de pièces. Faisons un rêve, l'acte 2 se passe entièrement au téléphone. Vous avez aussi, dans Tu m'as sauvé la vie, ce portrait d'un homme qui a deux téléphones chez lui. Un pour appeler et un autre, une ligne qu'il a installée juste pour se faire appeler, mais il ne décroche jamais. Guitry, c'est par rejet du téléphone qu'il en a deux. C'est quand même un paradoxe formidable. Et puis vous avez, avec le téléphone, l'irruption d'un troisième partenaire. Vous avez les acteurs, vous avez le public, et vous avez celui qui est au bout du fil, dont on n'entend pas les mots, mais on peut deviner la pensée grâce aux répliques.
Eh bien, pour illustrer votre propos, rien de mieux que d'entendre cet extrait de « Faisons un rêve ». 1916, c'est un extrait du film avec Jacqueline de Lubac, ultérieure. À partir de la découverte du cinéma, Sacha Guitry a beaucoup aimé transposer sur la toile ces pièces de théâtre. C'est un film qui est illustré par la beauté de Jacqueline et le talent de Jacqueline de Lubac, sa troisième femme. 1936, un monologue qui est extrait de l'acte 2.
« 9h-5, elle part de chez elle. Si, comme elle me l'a promis tantôt, elle part vraiment à 9h-5 de chez elle, elle sera ici dans pas tout à fait 6 minutes. Elle descend. Oh, ce que j'ai bien fait de parler aujourd'hui, moi. Oh, c'était le jour, c'était l'heure, madame, n'est-ce pas? On sent ces choses-là. Elle sort de chez elle, regarde à droite, regarde à gauche, elle traverse le trottoir, elle appelle un taxi. Psst, taxi, taxi. 25 avenue de Messine. Avec grand plaisir, madame. Tiens, encore un russe. Bon, elle part. Oh, je la vois dans le fond du taxi, comme ça. Elle tremble tellement, elle a peur. Elle tourne le coin de l'avenue de l'Alma, elle traverse les Champs-Élysées. Premier refuge, second refuge, elle prend la rue Washington. La rue Washington, il faut compter à peu près 2 minutes. Oui, j'ai le temps d'éteindre là et d'allumer la petite lampe qui est là-bas. Là. Ah, oh, c'est mieux, voyons, c'est beaucoup mieux comme ça, mais naturellement. C'est pas la lumière, ou plutôt l'obscurité, joue un grand rôle dans l'amour. C'est pas une pensée, c'est une réflexion.
Une ou deux notes en bas de page sont nécessaires. Le russe, parce qu'à l'époque, beaucoup de russes blancs, chassés par la révolution de 1917, avaient été réduits à la condition de chauffeurs de taxi. Que sont ces refuges qu'il évoque ?
Ce sont les îlots de béton mis au milieu des avenues pour que les piétons puissent s'y réfugier. Et évidemment, un taxi qui traverse les Champs-Élysées, ben, il va franchir plusieurs haies de refuge. Tout est exact dans cet itinéraire. Je l'ai minuté. Et c'est exactement ça. Et il termine en arrivant à avenue de Messine, parce que le 25 avenue de Messine, c'est son adresse de l'époque, quand il écrit la pièce en 1916. Et il dit que le taxi tourne autour de la statue de Shakespeare, ou du moins de ce qu'il en reste. Parce qu'il y avait une statue de Shakespeare, à cet endroit-là, qui avait été fondue pendant la Première Guerre mondiale pour faire des canons. Et ce qu'il en reste, c'est le piédestal. On l'enlèvera après la guerre, on y mettra une statue du baron Haussmann, et il reste à cet endroit-là un témoignage, une librairie papeterie qui s'appelle « À Shakespeare ». Guitry avait fait le détective pour décrire cet itinéraire.
Vous nous donneriez le goût, Christophe Barbier, de faire un ouvrage sur le Paris de Sacha Guitry.
Ah oui, c'est un Paris qui est encore très rive droite, qui est un peu l'héritier du Paris de Feydeau, Saint-Germain-des-Prés n'existe pas. C'est un Paris qui a migré des boulevards vers les Champs-Élysées. Il a d'ailleurs fait un film qui s'appelle « En remontant les Champs-Élysées » et énormément de ses intrigues sont dans ce Paris plus luxueux, celui qui va de la Madeleine jusqu'à l'actuelle place de l'Étoile. On s'éloigne du boulevard et des canailleries qui ont émaillé le tout début du XXe siècle avec Georges Feydeau.
C'est le temps où Sacha Guitry s'installe comme un personnage central de la vie parisienne, de la vie des théâtres. On retrouve sa trace partout dans la petite presse et d'ailleurs aussi dans la grande.
Oui, au-delà d'être un homme des théâtres, et évidemment de ce qui va autour, les restaurants, les apparitions, les inaugurations, les premières, c'est un homme des médias. Il va comprendre que la notoriété, la célébrité s'impose aussi par le fait d'être dans les journaux.
Et la radio.
Et la radio. Pas seulement par les critiques théâtre, mais par la vie. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard la pipolisation. Et d'un seul coup, on a des unes sur Guitry. Des unes internationales. Parce que la tournée à Londres, la tournée à New York, des Guitry, ça va donner un élan formidable à leur célébrité à Paris. Parce qu'ils sont le couple Printemps-Guitry, les Parisiens avec un grand P à New York, quand ils reviennent à Paris, évidemment, tout le monde se penche devant eux.
Mais pour lui, la planète, c'est un lieu de mondanité, beaucoup plus qu'un monde qui mériterait les analyses géopolitiques.
Ah oui, Guitry n'est pas du tout un voyageur explorateur.
C'est pas Paul Morand.
Ce n'est pas Paul Morand, ce n'est pas Kessel. Il est évident qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs. Il n'y a pas d'anthropologue chez Guitry. En revanche, le monde est une vaste scène, comme pour Shakespeare. Et surtout, le monde est une vaste vitrine pour lui. Et quand il va en tournée en Italie, on lui propose de rencontrer le chef du gouvernement. Qui se trouve être Benito Mussolini.
Et ce sera d'ailleurs un élément de...
À charge.
À charge.
Mais on ne refuse pas de serrer la main d'un chef d'État quand on va dans un pays. C'est un honneur, ça fait une belle photo. Guitry n'a aucun sens politique, mais il a un sens publicitaire.
C'est le temps aussi où il découvre le cinéma, après quelques temps de relative méfiance.
Guitry a découvert le cinéma avant tout le monde. Le jeune Sacha Guitry avait une caméra, c'était un objet rare à l'époque, et il tourne en 1915.
C'est très important.
Très important. Ceux de chez nous. Il filme des gloires qui vont disparaître et dont on n'a pas d'image animée que celle tournée par Guitry. On a Monet, on a d'autres peintres, on a Degas, je crois, qui est saisi parce qu'il ne voulait pas être filmé. Degas, eh bien, Guitry invente le paparazzi. Il filme à la sortie de son immeuble, clandestinement. Et il va faire de ce film un sujet de conférence. Il projette ce film et ça lui permet de faire des conférences sur toutes les célébrités qu'on y voit, qui étaient essentiellement les amis de son père.
Il y a une capacité d'admiration chez lui qu'on ne souligne pas toujours assez.
C'est même son ressort. Il fonctionne par admiration. Quand il écrit des pièces biographiques, c'est toujours pour glorifier les personnages. Pasteur, évidemment, pièce patriotique, mais également Mozart. Mozart saisit dans l'un de ses voyages à Paris, c'est anecdotique, la pièce n'est pas très bonne. Mais, évidemment, c'est pour glorifier le génie de Mozart. Génie musical, génie amoureux. Mais c'est aussi vrai avec des personnages plus oubliés. Il fait Béranger, qui est un chansonnier très important du début du 19e. Il fait Henri Monnier, l'inventeur de Monsieur Prudhomme. Il leur consacre des pièces parce qu'il veut les glorifier. Et il procède ainsi par panthéon personnel. Mais l'admiration est excessive. Donc en faisant gonfler par trop les statues qu'il dresse à tous ceux qu'il admire, on tombe dans deux travers. D'abord, ça devient ronflant. Donc ces pièces ne sont plus jouables aujourd'hui, par exemple. Et puis surtout, on se rend compte qu'il dit du bien de tous ces êtres-là parce qu'il leur ressemble ou qu'il s'efforce de leur ressembler. Donc il y a du narcissisme aussi dans cet exercice d'admiration.
Plus de vanité que d'orgueil ou le contraire ?
Je dirais pas qu'il y ait de la vanité chez Guitry parce qu'il n'y a pas de mesquinerie chez Guitry. Tout est flamboyant, tout est excessif, mais tout est grandiose quand même. On met les moyens. Quand il joue sur scène, il reproduit son appartement. C'est plus facile et c'est plus confortable. Et pour que les tableaux de maître qui sont au théâtre fassent vrai, eh ben il prend les vrais. Il les décroche de son salon et il les accroche sur scène. Donc ça, c'est de l'orgueil. C'est théâtre, vie, tout est mélangé. C'est pas de la vanité.
Vous dites que certaines de ces pièces sont plus vivantes aujourd'hui que d'autres qui sont frappées d'obsolescence. Et il en a fait 124 et 36 films. Donc ça nous conduit à pousser la réflexion, c'est-à-dire à nous demander quelles sont les pièces qui survivent et pourquoi, parmi d'autres qui ont disparu.
Alors comme les enfants, il en a reconnu 124. Il en a écrit sans doute plus de 140. Mais certaines, il les a mises au banc parce qu'il ne les jugeait pas dignes de lui. Il circule d'ailleurs des manuscrits à l'emporte-pièce de pièces inachevées de Guitry. Moi, j'ai pu acquérir comme ça 20 feuillets de deux actes d'une très mauvaise comédie de vaudeville antérieure à 1914, signé Guitry sur un papier d'hôtel.
Au fil de la plume.
Au fil de la plume, comme ça, un matin, il a dû avoir une inspiration. Il a fini le bec dans l'eau. Mais, vous voyez, sa boulimie de travail donnait cela. Donc, 124 pièces reconnues, plus ou moins classé par lui, et 36 films. Et là-dedans, en effet, l'obsolescence ne frappe pas de la même manière.
Alors, la rencontre avec le cinéma ?
La rencontre avec le cinéma, c'est aussi l'œuvre de ces femmes. C'est-à-dire que immortaliser sur écran la jeunesse qui devient donc éternelle de ces femmes. Et là, celle qu'on évoquait tout à l'heure, Jacqueline de Lubac, a de l'importance. Par ailleurs, Guitry a compris que le cinéma n'était pas seulement une manière de capter une pièce de théâtre, d'immortaliser un texte. C'était un stylo et qu'on pouvait écrire avec une caméra. Et il le découvre très tôt. Il invente le générique. Il invente une manière de filmer les plafonds. Il invente une manière de présenter les acteurs. Il invente ce qu'on appelle aujourd'hui le caméo ou la panouille dans l'argot des comédiens, c'est-à-dire des célébrités qui passent juste une tête pour dire une réplique. Il va, de tout cela, faire un cinéma assez inimitable avant la guerre. Et ça donne des films extrêmement réussis.
Par exemple, le roman d'un tricheur qui a beaucoup marqué.
Le roman d'un tricheur, c'est le seul roman de Guitry. Il n'a écrit que des pièces et des scénarios. Le roman d'un tricheur, c'est autobiographique sans lettres. C'est la vie qu'il aurait voulu avoir. Ça a beaucoup marqué parce qu'il y a un narrateur. Il n'y a pratiquement pas de texte dans le film. On voit jouer ce que le narrateur nous raconte. C'est un procédé quand même extrêmement audacieux. Il n'y a pas une seconde d'ennui. Le seul qui parle dans ce film, c'est un mime. C'est vous dire jusqu'où il poussait la cocasserie et le paradoxe.
Et là, j'ai revu le film récemment, que le générique est en effet très, très piquant, puisqu'il présente avec son propos les différents acteurs, les différents...
C'est une sorte d'interview générique.
Et puis ensuite, il y a cette fameuse idée, parce qu'il y a souvent une idée de départ. C'est-à-dire que toute une famille mange des champignons empoisonnés, sauf lui qui a été puni et qui par conséquent survit.
Il survit à toute sa famille et ça va donner un coureur de casino qui triche, cherche aussi l'amour avec des aventures rocambolesques. Et à la fin, il y a une morale. C'est un film complètement fou. Il y a des films qui sont peut-être plus importants dans l'apport de Guitry au cinéma. Je pense à « Ils étaient 9 célibataires ». Là aussi, on est dans l'époque. Les étrangers doivent quitter le pays à moins d'être mariés. Donc une riche russe, là encore, va chercher à épouser pour un mariage blanc. On lui présente des clochards. Et ça donne une galerie de portraits formidable. Je pense à « La Poison » avec Michel Simon, qui est un film extrêmement noir, extrêmement sombre, prodigieux. Et ça, c'est un grand film de cinéma. Et puis je pense aux découvertes du Guitry tardif. Ne parlons pas de ses fresques historiques, mais c'est lui qui découvre Darry Cole. C'est lui qui donne à Poiret ses rôles, leurs premières fortes apparitions. Il est dénicheur de talent jusqu'aux dernières années avant sa mort.
Michel Bouquet aussi.
Oui, Michel Bouquet a travaillé. Michel Bouquet a surtout travaillé avec Anouilh. Ça a été son grand auteur de théâtre et de cinéma. Il commence avec Patte Blanche avec Anouilh. Mais il était aussi dans le giron de Guitry.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Ah, il faut que nous en venions au moment où l'illusionniste laisse la place à l'équilibriste, comme a dit quelqu'un, c'est-à-dire la période très difficile de l'occupation. Il a dit après coup que ces 4 années avaient été des années de souffrance, en plein contraste avec les 30 années de bonheur qu'il avait connues auparavant. Son comportement révèle beaucoup sur le personnage, y compris sur la nature même de son théâtre, qui nous occupe ce matin, Christophe Barbier.
Il y a un film de Guitry qui nous explique pourquoi il s'est trompé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce film s'appelle « Donne-moi tes yeux » et ça raconte l'histoire d'un sculpteur qui devient aveugle. Eh bien, c'est ça Guitry pendant la guerre. Il est aveugle, il ne se rend pas compte de ce qu'il voit. Plutôt, il ne voit pas ce qu'il y a derrière ce qu'il voit. Guitry est-il pro-allemand ? Non. Guitry a interdit que ses pièces soient jouées en Allemagne. Pourquoi ? Pas parce qu'il supportait pas le nazisme, parce qu'il ne leur pardonnait pas l'invasion de 1870. Là encore, illusion d'optique, erreur. Il ne règle pas bien sa focale politique.
Vous nous dites quelque part que pendant l'occupation, il croit qu'il suffit d'être patriote alors qu'il faudrait être résistant.
Il est très fier de faire chanter la Marseillaise à la fin de Pasteur. Il est très fier d'écrire une pièce ironique qui s'appelle « La preuve par 7 », je crois, où il raconte comment on lui demande de prouver qu'il n'est pas juif et qu'il ridiculise les lois raciales. Pour lui, c'est suffisant d'être patriote. C'est suffisant de dire à un officier allemand qui vient dans sa loge « Rendez-moi des noms, je ne vous demande pas des vivants, je vous demande des morts. Porto-Riche, Sarah Bernard, rendez-les-moi. » Voilà, un moment d'éclat comme ça face à un nazi très bien élevé qui va évidemment en français lui répondre avec esprit. Pour lui, ça y est, il a fait son devoir.
On a le sentiment pour lui que les Allemands ne sont guère entrés en France que pour, en somme, prendre des leçons de parisianisme.
D'ailleurs, ça commence comme ça, puisqu'il est à Dax en 1940. Il rencontre Bergson, qui prend les eaux comme lui dans cette ville thermale, et il organise le retour à Paris de Bergson, qui est juif, avec l'aide d'Allemands bien élevés, qui donne un bon d'essence et un laissez-passer ainsi formulé. « Veuillez laisser passer messieurs Guitry et Bergson » pour ce qu'ils apportent à la culture française. Donc, pour Guitry, de civilisation à civilisation, d'homme bien élevé à homme bien élevé, on peut rester patriote en discutant avec les Allemands. Il ne se rend pas compte qu'il faut résister, et pas simplement rester dans sa fierté. Octave Mirbeau, mort pendant la guerre précédente, lui avait confié sur son lit de mort, Guitry, ne collaborez jamais. Ça voulait dire, ne travaillez jamais avec un collaborateur pour écrire une pièce. Mirbeau avait eu bien des mésaventures. Et Guitry s'en souvient pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se demande ce que voulait dire ce mot de Mirbeau, ne collaborer jamais. Vous voyez, pour faire un mot d'esprit, Guitry est prêt à aggraver son cas politique.
Oui, quand il dira finalement la libération, je peux dire que j'en étais le premier prévenu.
Oui, parce qu'il est arrêté alors même que les cloches n'ont pas sonné pour la libération de Paris. Il dira aussi, on m'accuse d'intelligence avec l'ennemi. Je crois que je n'en ai pas manqué, en effet. Il n'arrêtera pas de faire des bons mots sur son propre destin. Ironie qui lui permet de mieux résister à ses souffrances, mais qui montre à quel point, jusqu'au bout, il ne comprend pas le problème. Il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. On lui reproche d'avoir brillé, dans une période sombre.
Écoutez donc ce reportage lors d'un vernissage du peintre Van Dongen à Paris. C'est un extrait des Actualités françaises du 20 novembre 1942. On est déjà dans le moment où l'Allemagne est en train d'envahir la zone sud. La tonalité est tout à fait révélatrice.
50 années de peinture. Van Dongen pénètre dans la galerie Charpentier où se tient son exposition. Le peintre était seulement âgé de 15 ans lorsqu'il fit le portrait de son père. Un demi-siècle plus tard, Van Dongen vient de terminer le portrait de son fils. Van Dongen, vu par Sacha Guitry. Au-dessus, Sacha Guitry, vu par Van Dongen. Arletty, aux côtés de Van Dongen et de Sacha Guitry, va admirer son portrait. L'exposition est prétexte à un vernissage élégant où se presse la foule des grands jours. On reconnaît messieurs Hautecoeur, directeur général des Beaux-Arts, Bussière, préfet de police, et aussi, conversant avec l'artiste, Madame Otto Abetz, venue assister à ses 50 années de peinture qui sont surtout 50 années de vie parisienne.
La vie parisienne, tout est dit, Christophe Barbier. On peut rappeler que la femme d'Otto Abetz, c'est la femme de l'ambassadeur de Hitler à Paris. Elle est elle-même d'ailleurs française, si j'ai bonne mémoire. C'est la secrétaire, je crois, du collaborateur Luchet.
Grand homme de presse de la collaboration. Abetz l'avait rencontré et épousé en 1932, donc, vous voyez, bien avant la guerre. Donc les liens noués avant donnent cette collaboration mondaine. Qu'est-ce que l'on entend là? Ces gens-là ne font rien de mal. Un peintre, un vernissage, c'est la vie. Les Alliés viennent de débarquer en Afrique du Nord. Vous l'avez dit, la zone sud a été envahie. Eh bien, on continue à aller à des vernissages. C'est bien ça leur problème. C'est le vernis. Ils ont mis une sorte de vernis d'amour de la patrie sur un comportement qui n'est pas un comportement de résistant. Après, on peut se demander, pourquoi ça tombe sur Guitry? Pourquoi ça tombe sur Guitry à la fin du mois d'août 44 et pas sur Cocteau, et pas sur Arletty, et pas sur Chanel qui a le temps de fuir, un peu aidé, et pas sur...
Arletty était là dans l'exposition Van Dongen.
On vient d'entendre son nom. Arletty est au téléphone avec Guitry le matin où Guitry se fait arrêter. Et Guitry lui explique par A plus B pourquoi ça n'arrivera pas, pourquoi ils n'auront aucun ennui, pourquoi tout va bien, pourquoi ils se sont très bien comportés. Et c'est vrai, il a fait libérer Tristan Bernard, il a aidé Paul Valéry, il a aidé Bergson. Pourquoi viendrait-on lui chercher des noises? Mais quelques semaines avant, il faisait une conférence sur un livre qu'il venait de faire paraître, qui s'appelait « De 1429 à 1942, de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain ».
Il a même changé le titre pour en rendre hommage au chef de l'État. On raconte qu'il a été voir Pétain à Vichy, qui même lui aurait recommandé de ne pas titrer de la sorte.
Oui, le maréchal lui a dit « Vous aurez des ennuis ». Et Guitry ne l'a pas écouté.
Lucide, pour une fois, Philippe Pétain.
Lucide, plus lucide en tout cas que Guitry. Mais c'était un ouvrage collectif. Il y avait des tas de signataires dans cet ouvrage qui rendait hommage aux plus grandes gloires de l'histoire de France pendant 500 ans. On a ennuyé que Guitry. Alors c'est vrai que faire une conférence fin juin 1944 sur un livre qui est un hommage à Philippe Pétain, dans un Paris qui va être libéré et dans les librairies en vitrine, il y aura Sacha Guitry et Philippe Pétain sur la même couverture, c'était pas une bonne manière de préparer la fin de la guerre.
C'est plus qu'inconscient.
On est au-delà de l'inconscience, on est dans la cécité la plus totale. Ne jamais réussir à considérer l'événement historique à sa juste mesure.
Tout ça s'enracine dans une donnée fondamentale. Quand on considère Sacha Guitry, c'est son désintérêt pour la politique. On parle de politique que de façon un peu dérisoire.
Dérisoire et grandiose. C'est-à-dire dérisoire pour se moquer des ambitieux. Monsieur le ministre est au poste. Comment ? Mon mari est au poste, dit la femme du ministre. Non, monsieur le ministre est au poste et télégraphe, il vient d'être nommé. Voilà, ça c'est l'humour de Guitry. Donc le spectacle des ambitions politiques et des mesquineries politiques, il en fait un sujet de comédie. Il dit d'ailleurs que pour lui, un gouvernement qui tombe, c'est comme une pièce qui tombe de l'affiche. Voilà, ça n'a pas plus d'importance. Mais en même temps, c'est grandiose. C'est-à-dire qu'une fois que l'histoire politique est passée, il en retient le patrimoine et il s'intéresse au roman national. Et il va glorifier des épisodes parfois anecdotiques, Désiré Clary. C'est-à-dire celle qui aurait pu épouser Napoléon, qui a épousé Bernadotte. Mariette, ou comment on raconte l'histoire, c'est une histoire romancée de l'ascension de Louis-Napoléon Bonaparte.
Comédie musicale.
Comédie musicale. Le petit bout de la lorgnette. Voilà ce qui permet à Guitry de prendre l'histoire pour en faire des pièces amusantes. Mais quand on regarde la vraie histoire par le petit bout de la lorgnette, on voit tout au bout un tout petit personnage, on s'en inquiète pas, et c'est un dictateur. Bon, alors le bon mot en temps de paix, ça va. Mais le mot d'esprit, par-delà les réalités d'une occupation, d'une dictature, là évidemment ça ne passe plus. Après, on peut légitimement considérer que le châtiment qui a été infligé à Guitry était hors de proportion par rapport à ce qu'il avait fait, en oubliant ce qu'il avait fait aussi parce qu'il a rendu des services éminents à ses risques et périls pendant la guerre, et puis surtout pour aboutir à un fiasco judiciaire. Parce que les mois d'instruction du dossier Guitry vont aboutir à rien du tout. Le juge d'instruction a même passé une petite annonce dans la presse que ceux qui ont des choses à reprocher à Monsieur Guitry viennent me voir à mon bureau parce qu'il avait rien dans le dossier. Alors on va lui infliger une peine sociale. Certes, on peut pas le condamner, mais on va l'interdire de scène, l'interdire de publication pendant quelques années. On va l'envoyer non en enfer, mais au purgatoire.
Il en a tiré 2 livres d'ailleurs, qui sont...
60 jours de prison et 4 ans d'occupation. Il en a tiré aussi une amertume qui va l'habiter jusqu'à la fin de sa vie. Une dégradation physique, parce que le séjour à Drancy, le séjour en prison, vont l'abîmer. Et puis surtout, la disparition de tous les amis, tous ceux à qui il avait rendu service, qui d'un seul coup oublient son nom. Heureusement, quelques-uns vont lui rester fidèles. Paulette Carton, qui lui envoie un petit mot. « Patron, je ne sais pas où vous êtes, mais je donnerai cher pour y être avec vous. » Et Guitry répond « Ça, c'est quelqu'un. » Mais aussi l'Anna Marconi, qui va être sa future épouse.
Sa dernière femme, sa cinquième épouse.
Sa cinquième épouse et dernière. Quand il l'épouse, il lui dit « Vous serez ma veuve ». D'ailleurs, ils vivent à 3, parce qu'elle entretient, elle, une relation saphique avec une tenancière de cabaret lesbien. Et puis les jeunes qui arrivent. Qui garde la maison de Guitry pendant l'épuration pour éviter le pillage ?
Alain Decaux.
Alain Decaux. Vous voyez, il y a des jeunes qui arrivent et qui vont être en admiration de Guitry. C'est aussi ça le secret de sa transmission aux générations futures. C'est qu'en 1945, en 1950, de jeunes adolescents se sont passionnés pour le vieux Guitry et ont tenu la promesse de faire passer son œuvre aux générations suivantes.
Alors c'est le temps des derniers grands films qui vont, de façon un peu surprenante avec le recul, mais c'est une manière de répondre à notre interrogation sur la pérennité de Guitry, qui vont voir la nouvelle vague, en particulier François Truffaut, par exemple, célébrer le cinéma de Sacha Guitry. Là, il y a une continuité qui mérite qu'on s'y arrête.
La manière d'écrire de Guitry au cinéma n'est pas du tout académique. Elle peut être ronflante, elle peut être un peu pompière, elle est parfois grandiloquente, mais elle n'est pas académique. Personne ne peut faire un film comme Guitry sans être Guitry. Et ça, c'est une signature, ça, c'est un style. C'est ça qui va plaire à la nouvelle vague. C'est-à-dire montrer aux spectateurs qu'on n'est pas dupe de l'outil cinématographique et qu'on peut en sortir du cadre. Jusqu'à Woody Allen, il y aura de l'inspiration Guitry qui traversera le temps. C'est pour ça que le cinéma de Guitry reste moderne plus par sa forme que par son contenu. Parce que les histoires peuvent sembler étrangères aux générations d'aujourd'hui. Pour lui, l'histoire est un livre d'images et une collection de bons mots. Donc il met ça sur pellicule et il en fait un spectacle. Il oublie au passage la réalité. Il oublie le peuple aussi souvent dans cette histoire. C'est une histoire écrite par le haut, dans laquelle s'invitent parfois des figures populaires, mais pour bien nous montrer que le roman national, il doit sonner.
Eh bien merci de cette transition vers l'extrait que je vais vous donner à entendre, Christophe Barbier. Un extrait du dernier grand succès de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté, 1954. Nous allons voir y apparaître Édith Piaf. Ce film illustre exactement ce que vous venez de dire sur la rare apparition du peuple dans ses créations.
Sire, voilà 100 ans que le peuple a quitté les faubourgs de Paris pour venir à Versailles. Sire, voilà 100 ans que vos peuples sont là. Voilà 100 ans qu'ils se détachent de la France et qu'ils n'ont plus de goût pour les métiers qu'ils font. Or, c'est précisément cette désaffection qui me paraît si grave. L'ouvrier n'achève pas son travail. Il dit « Oh, ça ira ». Le paysan répond « Ça ira ». Ça ira. À force de dire « ça ira », je crains qu'un jour il ne le chante. Ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira.
La croix sans ange nous promet qu'on va nous accorder du pain. Et qu'ils entretiennent des cadins. La droite sans enfant nous écrase. Assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
J'ai le goût, Christophe Barbier, de vous donner très rapidement la liste de tous les acteurs du temps qu'il a mobilisé pour des rôles souvent mineurs pour réaliser Si Versailles m'était compté en 1954. D'abord sa femme, qu'il a installée dans le rôle de Marie-Antoinette, Lana Marconi.
mais aussi Jean Marais, Orson Welles, Jean-Pierre Aumont, Gérard Philippe, Michel Auclair, Daniel Gélin, Daniel Delorme, Bourville, Jean-Louis Barrault, Georges Marchal, Micheline Prel, Fernand Gravet, Pierre Larquet, Jean de Sailly, Pauline Carton, la chère Pauline Carton, Jacqueline Maillan, Nicole Courcel et même Brigitte Bardot et Édith Piaf que nous venons d'entendre. Voilà du beau monde.
Ça signe la réhabilitation de Guitry après les années gênantes de l'après-guerre. En effet, le tout Paris du cinéma veut apparaître sur ces films monuments. D'ailleurs, ce n'était pas que des films. Par exemple, si Versailles m'était compté, à la sortie du film, il y a des parutions de livres, mais des énormes livres qui font 70 cm de haut, avec des facsimilés de documents historiques et, pour les premiers 100 exemplaires, une dédicace à un autographe de Guitry lui-même. Et on organise de vastes premières. Une des dernières sorties officielles de Guitry, parce qu'à ce moment-là, il dirige ses films depuis un fauteuil roulant, il peut pratiquement plus se tenir debout. Une de ses dernières sorties officielles, c'est une avant-première à l'Opéra Garnier, d'un de ses films, et il sort porté au-dessus de la foule avant de rejoindre son taxi.
Avec donc, toutes les autorités de la République qui viennent célébrer ce film sur l'Ancien Régime.
Et qui viennent célébrer le Roi Soleil de Paris, c'est-à-dire Guitry, soleil qui s'est rallumé dans la douleur après l'épuration.
Alors ce dernier cinéma et ces dernières pièces apportent-ils des éléments d'explication pour cette interrogation qui a parcouru notre conversation, Christophe Barbier, c'est-à-dire pourquoi la survie de Sacha Guitry, en dépit de tout ce qui peut nous apparaître comme dépassé, enraciné dans une société qui a disparu?
Cette dernière période, 47-57, apporte deux choses. D'abord, il y a du flamboyant. Guitry est maintenant un monument historique, on n'est plus dans la légèreté de l'esprit qui virevolte, on est dans le flamboyant. Ça, ce sont ces grands films historiques.
Ça explique pourquoi ça dure?
Oui, ça explique parce que c'est rentré un peu au patrimoine. Et on revoit ces films comme un témoignage de ce moment. Et puis la deuxième chose, c'est la douleur. C'est l'homme qui se recroqueville, rongé par la maladie.
C'est apparu dans sa vie la douleur qui lui était si étrangère, en somme.
Il l'avait invité dans sa vie, de manière un peu cocasse, quand il avait dû aller au service militaire. Il n'avait pas du tout envie d'y aller. Donc,
il s'est fait réformer, d'ailleurs.
Il s'est fait réformer pour rhumatisme. Donc, pour organiser cela, il s'était exposé à l'humidité et au froid, et il avait attrapé de vrais rhumatismes, qui vont l'ennuyer toute sa vie, lui causer de vraies douleurs, et finalement le tuer, parce que la dégradation de son état est venue aussi de cette impotence née des rhumatismes.
À l'origine, ça tient au fait qu'il s'est voulu embusquer?
Voilà. Le tir au flanc, eh bien, l'a rattrapé. Ça lui avait valu déjà des ennuis pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il avait l'âge d'être mobilisé, mais il était réformé, et on l'avait accusé de mener vie mondaine, de fuir Paris même quand la grosse Bertha envoyait ses obus, et donc d'être un tir au flanc.
On imagine ce qu'un moraliste sévère pourrait tirer de cette histoire.
Ah oui, ce Guitry-là n'était pas très glorieux quand même. Il n'avait pas du tout envie d'aller se faire trouer la peau sur le front, considérer que c'était une occupation vraiment, vraiment inutile. Et à la fin de sa vie, les douleurs de son corps le rattrape et finalement, il y a une certaine émotion. La dernière apparition en scène de Guitry, je crois que c'est en Belgique, mais j'en suis pas sûr. On est obligé de fendre ses souliers, parce que ses pieds ont tellement gonflé qu'ils ne rentrent plus dans ses souliers de scène. Et il joue quasiment assis durant toute la pièce.
Il y a un chapitre qu'il faudrait développer, nous n'avons plus le loisir, ce sont les relations effectivement de Guitry avec la mort, qui peut-être, en effet, l'installe dans une plus longue durée que ce qu'il peut y avoir de superficiel dans certaines bulles de savon.
Oui, il y a un dialogue permanent de Guitry avec la mort, parce qu'on le sait, la légèreté, c'est le revers aussi de la tragédie et du sens tragique. Et puis, il y a les morts qui l'ont marqué, la mort de son frère. Son frère n'avait pas réussi comme lui, et il meurt assez jeune dans un accident de voiture. Ils partagent d'ailleurs le même tombeau avec leur père. La mort de Lucien Guitry, qui est une mort brutale, alors qu'ils se sont réconciliés depuis 7 ans à peine. La mort des êtres qu'il aime, ça l'a toujours tenaillé. En juillet 57, il y a des gens qui s'attroupent devant la maison parce qu'on a appris que Monsieur Guitry était mal, qu'il était mourant. Et le dernier regard de Sacha Guitry, c'est pour le portrait qui est en face de son lit, c'est pour Lucien Guitry. Donc vous voyez, on retrouve père-fils à la mort comme à l'enfance. Et puis son dernier mot, c'est pour Lana Marconi. Il lui dit « Oh mon petit, ne me regarde pas, ce n'est pas un spectacle ».
Et vous voyez là, Christophe Barbier, une des explications de cette pérennité du théâtre.
Guitry est plus qu'un auteur de théâtre. C'est un personnage du théâtre de la vie réelle. Les auteurs ne sont pas des personnages de la comédie de la vie. Anouilh, Giraudoux, Bernstein, que vous citiez, c'était des auteurs professionnels, point barre. Guitry écrivait des pièces de théâtre et jouait une immense pièce interminable de théâtre qui s'appelait « Sa vie ». Et ça, c'est aussi un secret de sa pérennité. Parce que quand on s'est inscrit comme cela, comme un personnage du roman national, à la hauteur de grands politiques, ou aujourd'hui de grands sportifs, ou de grandes vedettes de la musique...
On s'inscrit dans la mémoire, c'est ça que
vous voulez dire. On s'inscrit dans la mémoire. Et quelque part, il y avait chez Guitry du Johnny Hallyday, avec sans doute plus d'esprit et une voix un peu différente.
Tiens donc.
Et donc ça, c'est un secret aussi de la durée.
C'est pas non, pour ça qu'on le joue encore.
Ça, c'est pour cela qu'on s'en souvient. Et que Guitry n'est pas oublié. Je pense même qu'il y a des gens qui doivent croire que c'est un personnage qui n'a pas existé, mais qui est une sorte de héros de roman ou de fable.
Et le public est attiré de ce fait quand on le donne sur la scène?
Le public est fasciné. Parce qu'il vient chercher le double fond. Qu'est-ce qui était sa vraie vie? Qu'est-ce qui était l'invention? Regardez la pièce qui s'appelle Toa. Non seulement il a reconstitué son appartement sur scène, mais le personnage au deuxième acte, qui le poursuit de sa vengeance de femme, surgit dans le public. C'est-à-dire que la représentation devient la pièce, et les spectateurs sont les témoins de ce qui se passe dans la vraie vie. Où est le vrai, où est le faux?
Et ça, c'est très moderne.
Ah oui, la fusion du vrai et du faux.
Dans le monde du théâtre aujourd'hui.
Mais c'est très moderne. À la même époque, il y a un auteur de génie, lui, qui, lui, dans le vol littéraire, fait partie des plus grandes œuvres de l'humanité, qui fait la même chose. Le théâtre, c'est la vie c'est le théâtre. Il s'appelle Luigi Pirandello. Et nous sommes à la même époque. Pirandello, Guitry, c'est la même chose. Sauf que Guitry, c'est de la chantilly, et puis Pirandello, c'est du marbre.
À chacun sa vérité. Est-ce que Sacha Guitry aurait pu reprendre ce titre de Pirandello?
Mais c'est le sous-titre de toutes ces pièces de théâtre. Les femmes qui mentent aux maris, les maris qui trompent leurs femmes, tous ceux qui n'osent pas s'avouer à eux-mêmes leur propre mesquinerie, ils sont dans le « à chacun sa vérité ». C'est beaucoup moins tragique que chez Pirandello. C'est sans doute beaucoup moins philosophique, mais c'est beaucoup plus joyeux. Et puis la pérennité aussi de Guitry, pourquoi il est joué aujourd'hui? C'est parce qu'il a su appuyer sur des ressorts éternels du rire. Il y a des choses qui font rire à l'époque où on les écrit. Et puis il y a des événements, des choses, des répliques, des scénettes qui font rire toujours.
Et c'est ce que nous avons exactement vu en parlant de La Biche et de Feydeau dans des émissions précédentes.
En remontant jusqu'à Molière. Tous ces auteurs sont les enfants de Molière parce qu'ils ont su, comme Molière, appuyer sur des ressorts éternels du rire. Des ressorts éternels du rire, mais du rire à la française. Voilà. C'est pas l'humour britannique, c'est pas l'humour juif, c'est pas l'humour américain, c'est l'humour à la française. Il se passe le témoin, tous ces auteurs. À qui Guitry a-t-il passé le témoin? Ça, c'est peut-être plus difficile à dire. Parce que le rire après Guitry, dans les années 60, devient politique, il devient agressif, il devient parfois aigre, c'est parfois un rire jaune. L'époque se retourne contre elle-même.
Mais pourtant, on le joue.
On le joue peut-être aussi pour ça. Parce que son rire est un rire frais.
Et qui protège contre ce que les autres rires peuvent avoir de rude.
Oui, c'est-à-dire c'est un rire qui n'a pas d'arrière-pensée. C'est un rire dont on ne se repent pas 2 heures après ou en se réveillant la nuit au milieu d'un cauchemar.
Merci beaucoup, Christophe Barbier. Je rappelle que vous avez, naguère, publié un livre en forme d'anthologie, mais de commentaires, Le Monde selon Sacha Guitry, avec ce sous-titre « Sagesse, aphorismes, mots d'esprit et perfidie ». C'est une édition de Talendier qu'on retrouve dans la collection Texto. Je dois citer aussi le précieux volume de la précieuse collection Découverte, Sacha Guitry, l'homme orchestre. C'est un livre d'Olivier Barrault, dont on sait à quel point... Il est familier de tout ce qui fait la force, la grandeur, la diversité de la littérature française, et par Raymond Chira. Et puis, il faut rendre hommage à un très beau livre de l'éditeur Omnibus, qui a publié d'ailleurs les œuvres, non pas complètes, ce serait trop, mais un bon nombre de pièces de théâtre de Sacha Guitry. André Bernard, Sacha Guitry, une vie de merveille, avec une préface de Jean Piat, qui vraiment conduit dans le monde de Sacha Guitry que nous avons tenté, Christophe Barbier, de restituer aujourd'hui. Je voudrais dire aussi, puisque je signalais que vous êtes comédien, et pas seulement journaliste, et pas seulement historien de Guitry, je voudrais signaler qu'actuellement, on peut, je l'ai fait avec bonheur, aller assister à la pièce que vous avez appelée Offenbach et les trois empereurs, qui a été écrite, mais qui est mise en scène par vous, avec le grand talent de la soprane Pauline Courtin, et vous restituez tout le monde d'Offenbach. C'est un véritable délice au théâtre de poche. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son Florent Bujon, avec Célian Guimard à la discothèque et Delphine André
pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel.